Lecture audio de l'avertissement numéro 1 du rap Grande Culture du 16 avril 2021 intitulé « 7 astuces en ce début de saison pour protéger la santé de vos cultures ». Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre pour prévenir et mieux contrôler les ennemis des grandes cultures tout en favorisant la rentabilité des entreprises agricoles.
Première astuce, planifiez vos rotations. En plus des bénéfices économiques découlant de l'amélioration de la qualité des sols, l'alternance d'au moins 3 cultures différentes dans un champ donné permet de réduire la pression de certains insectes, mauvaises herbes et maladies. Un sol bien structuré et riche en matière organique rend les racines moins sujettes aux maladies. Autre exemple, la rotation des cultures est très efficace pour contrôler la chrysomèle des racines du maïs. Le printemps est un bon moment pour planifier l'ensemencement d'une céréale d'automne après la culture du soya ou pour planifier vos engrais verts d'automne à la dérobée. Deuxième astuce, pensez à désherber en début de saison. Les températures chaudes des derniers jours ont favorisé la germination et la croissance des mauvaises herbes. Il est donc nécessaire de prévoir dès maintenant une stratégie de désherbage puisque les cultures tirent avantage à être exemptes de mauvaises herbes au moment de la levée. Des périodes critiques durant lesquelles les cultures doivent être préservées de cette compétition pour l'eau, la lumière et les éléments fertilisants ont été établies. Par exemple, la période critique pour le maïs s'étend du stade 2 feuilles au stade 8 feuilles. Les mauvaises herbes qui apparaîtront au-delà de ces périodes auront beaucoup moins d'impact sur le rendement. Pour en savoir plus sur ces périodes critiques, consultez la fiche « Désherbage de début de saison ». Un retard sur le désherbage des vivaces et des volontaires de céréales d'automne rend l'opération de désherbage plus difficile à réaliser. Une autre bonne raison de désherber tôt en saison est que des papillons pouvant s'attaquer à certaines grandes cultures, comme la légionnaire nuponctuée et le ver gris-noir, cherchent la présence de mauvaises herbes pour y pondre leurs œufs. Afin de prévenir la migration de chenilles vers la culture, on recommande de détruire les mauvaises herbes de 10 à 14 jours avant le semis. Dans le cas des céréales d'automne, ce délai préviendra aussi le transfert des champignons qui décomposent les racines de céréales vers les racines du maïs, ce qui pourrait causer la fonte des semis dans le maïs. Désherbage mécanique. En 2020, le CETAB a publié 7 fiches techniques portant sur l'utilisation et l'ajustement de différents outils utilisés pour désherber mécaniquement les grandes cultures. La fiche sur les séquences de passage présente des schémas de désherbage en fonction du stade du maïs ou du soya et celui des mauvaises herbes, tout en adressant certaines problématiques qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Les périodes plus froides, qui retardent l'émergence des cultures et des mauvaises herbes, ou plus sèches, offrent de bonnes fenêtres pour planifier des opérations de désherbage mécanique. Désherbage chimique. Pour les entreprises ayant recours aux herbicides, voici quelques considérations importantes. La première action à poser en début de saison est de procéder à la calibration de son pulvérisateur afin de s'assurer d'appliquer la bonne dose du produit. Vous pouvez consulter les personnes accréditées pour la calibration en consultant le site Action Réglage. De façon à désherber efficacement, il est important de connaître les espèces de mauvaises herbes qui sont dominantes pour choisir le bon traitement. Les herbicides de prélevée ont une période d'action qui est généralement limitée à quelques semaines. Pour en savoir plus sur la durée d'efficacité des produits, référez-vous à l'information sur l'activité résiduelle dans les fiches des produits commerciaux sur le site Sage Pesticides ou, dans le cas du soya, à l'information relative à la demi-vie au sol disponible dans le tableau de l'outil OptiSoya. Les herbicides de prélevée ont besoin d'eau pour être activés. On doit viser une pluie d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant la pulvérisation pour fixer le bon moment d'application. Un dépistage post-traitement est un incontournable pour vérifier si une autre intervention serait nécessaire en cours de saison. Troisième astuce, semer au bon moment et à la bonne profondeur. Un semis effectué dans un sol suffisamment ressuyé et réchauffé permet aux plantules de se développer plus vite et plus uniformément. Une levée rapide expose moins les plantules à des ravageurs des semis, comme les vers fils de fer et la mouche des semis, et aux maladies fongiques. Une bonne profondeur de semis favorise également une levée rapide et donne aux plants une meilleure protection vis-à-vis du gel, de la grêle ou de la sécheresse. En prenant l'exemple du canola, semer au bon moment est la meilleure façon de gérer à la fois les risques liés aux altises et à la cécidomie du chou-fleur, les deux insectes les plus menaçants pour cette culture. Pour déterminer si les sols sont suffisamment réchauffés pour semer, l'utilisation du thermomètre du sol est utile. Le site d'Agrométéo Québec est une référence intéressante pour accéder aux températures du sol à différentes stations météorologiques. Les températures minimales du sol pour la germination sont environ 3 degrés Celsius pour le blé, 4,5 degrés pour l'orge, 6 degrés pour l'avoine, 10 degrés pour le maïs, 12 à 15 degrés pour le soya et 7 à 10 degrés pour le canola. Il faut surveiller les prévisions de température et de précipitation afin de s'assurer que les sols se réchauffent à la suite de semis hâtifs. La profondeur du semis doit être fixée en fonction de l'humidité. Le semoir doit être ajusté de façon à ce que les grains soient déposés sur une couche qui gardera une humidité suffisante dans la dizaine de jours suivant le semis et qu'il soit semé à une profondeur constante au sein d'un même champ. En fonction des conditions lors du semis, la profondeur visée va varier entre 1 pouce et demi et 2 pouces et demi pour le maïs et entre 1 et 2 pouces pour le soya. Quatrième astuce, éviter le développement de résistance aux pesticides. La résistance de mauvaises herbes à certains herbicides est maintenant une réalité au Québec. Parmi les principaux moyens pour prévenir ce problème, il est important de choisir un traitement approprié pour les mauvaises herbes détectées et de s'assurer d'effectuer une rotation des groupes de résistance des herbicides utilisés. Les numéros du groupe de résistance sont indiqués sur les étiquettes des produits. Une visite au champ après un traitement herbicide permettra de vérifier si les mauvaises herbes ciblées ont bien été contrôlées. Si ce n'est pas le cas et qu'on soupçonne la présence de plants résistants, on n'hésite pas à se prévaloir du service de détection de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides pour faire valider le tout. La présence de populations de mauvaises herbes résistantes exige davantage d'investissements pour les combattre et complique les programmes de désherbage. Le principe de rotation des groupes de résistance s'applique également aux insecticides et aux fongicides. Les insectes sont également en mesure de développer de la résistance aux hybrides de maïs BT. C'est pourquoi leur utilisation doit être limitée qu'aux champs à risque d'être affectés par les insectes contre lesquels on désire une protection. Référez-vous à la liste de différents hybrides de maïs BT disponibles au Canada pour en savoir plus sur les insectes qu'ils contrôlent et les exigences de refuge non BT. Une résistance à plusieurs protéines BT est suspectée chez certaines populations de chrysomèles des racines du maïs en Ontario. À ce sujet, il existe une fiche technique du RAP sur la stratégie de prévention contre la résistance de la chrysomèle des racines du maïs aux protéines BT. Cinquième astuce, informez-vous sur les facteurs de risque des maladies. Plusieurs essais menés au Québec dans les dernières années ont démontré qu'en l'absence de maladie, l'application de fongicides est rarement rentable. Comme la plupart des fongicides doivent être appliqués préventivement, comment savoir dans quel champ ces traitements seraient profitables? Dans le cas de la fusariose de l'épi, il existe un outil d'aide à la décision basé sur les conditions météorologiques et sur un modèle bioclimatique. Celui-ci est disponible sur Agrométéo Québec et présente des cartes du niveau de risque d'infection pendant les stades critiques de la culture. Dans le cas de la pourriture à sclérote, principale maladie du soya, lorsque le temps est chaud et sec pendant plusieurs jours et que les rangs ne sont pas refermés, les probabilités que le champ soit infecté sont minces. Le choix de cultivars résistants et une bonne connaissance des conditions favorables au développement des maladies permettent de minimiser les risques et de prendre une décision éclairée quant à l'utilisation des fongicides. Avec les bons choix de régie, on protège son rendement sans dépenser son argent inutilement. Pour en savoir plus, consultez le document « Avons-nous besoin de fongicides dans la culture du soya au Québec? » et la fiche « Maladies, mycotoxines et fongicides appliqués aux champs dans le maïs grain et le maïs en silage, que savons-nous? » Sixième astuce, effectuez un dépistage des insectes. En début de saison, certains insectes, dont les vers fil de fer, peuvent s'attaquer au semis. Lorsque des dommages sont constatés, il est souvent trop tard pour intervenir. Au Québec, seul un faible pourcentage des champs présentent des populations de varphylofers suffisamment élevées pour justifier l'utilisation de traitements insecticides de semences. Au printemps, un dépistage des varphylofers permet d'évaluer les risques que ces insectes puissent être problématiques et ainsi prendre les moyens pour s'en prémunir. VFF Québec est aussi un outil d'aide à la décision utile. Il permet d'évaluer le risque, d'identifier les ravageurs et de saisir les données de dépistage. Les varphylofers remontent à la surface lorsque le sol se réchauffe et ils sont attirés par le dégagement de CO2 des grains en germination. Ainsi, même si le sol s'est réchauffé dans les derniers jours, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Le dépistage est réalisé au moment de la germination de la culture. En cours de saison, d'autres insectes peuvent s'attaquer aux grandes cultures. Pour évaluer un niveau d'infestation, un dépistage rapide peut généralement être effectué et permet de déterminer si la situation requiert une intervention. Pour la majorité de ces insectes, des seuils économiques d'intervention existent et tant qu'ils ne sont pas atteints, l'utilisation d'insecticides n'est pas nécessaire ni rentable. Septième astuce, abonnez-vous au communiqué du RAP Grande Culture. Le RAP est un service provincial gratuit qui a pour mission d'informer les entreprises agricoles et les autres acteurs du milieu sur l'évolution des ennemis des cultures et les meilleures stratégies de lutte pour y faire face. Même si tous les communiqués sont accessibles en ligne, la meilleure façon de se tenir informé en cours de saison est de s'abonner pour les recevoir par courriel. Les avertissements, qui sont des communiqués très courts, permettant de suivre l'actualité entourant les ravageurs, sont facilement consultables à l'aide d'un appareil mobile. Vous saurez donc rapidement quels ravageurs doivent être suivis dans votre région et comment les dépister. Le RAP Grande Culture est aussi sur Twitter. Cet avertissement est disponible au www.agriréseau.net, secteur Réseau d'avertissement phytosanitaire. En parcourant la version de l'avertissement en ligne, vous pourrez accéder à une vidéo résumant les principaux éléments à prendre en considération lors du dépistage et cliquer sur plusieurs liens pour découvrir plus de sources d'informations concernant les astuces mentionnées. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.